Alors bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de saluer. Et je vous transmets aussi les salutations de l'église de Colmar-Ingersheim. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de renforcer ainsi les liens entre nos églises un peu éloignées géographiquement. Très heureuse aussi d'être là pour représenter le comité des dossiers de Christ seul et notamment pour parler du manga, le deuxième pas. Et c'est une joie pour moi d'intervenir aux côtés de Sangal, qui va maintenant vous expliquer la suite.
On va faire beaucoup de va-et-vient comme ça, entre Lucille et moi, jusqu'à la chaire, parce qu'on vous présente aujourd'hui une prédication à deux voix, sur une étude de texte que Lucille va faire, et moi plus sur un côté un peu contemporain, on va dire un petit peu des fois qui use de symboles ou de métaphores pour nous faire réfléchir sur ce qu'on vit nous aujourd'hui. Et alors je vais me présenter aussi un peu, je viens de l'église d'Alkirch du coup avec Ephraim, mon mari, qui est là et qui fait le piano ce matin. Parce qu'il n'y a pas de pianiste, c'est ça? Ah voilà, bon, mais il y a un piano. Alors, j'ai sur ma feuille noté prénom, âge, marié, des petites choses comme ça. Alors, prénom, je m'appelle Sangal, âge, j'ai eu 24 ans cette semaine, le 22 novembre. Bah, c'était déjà il y a une semaine, mais merci beaucoup. Église, j'ai déjà dit. Études, j'ai recommencé des études dans l'art, et du coup, je suis en deuxième année d'une école d'art qui est basée à Mulhouse. J'ai dessiné ce manga. Voilà, et la dernière chose que j'ai marquée, c'est « J'aime les mangas ». Et ma petite question peut-être, c'est, du coup, on a été dormir chez la famille Egué, donc j'aurais déjà posé la question, mais est-ce que vous connaissez les mangas, ceux que je ne connais pas encore? Est-ce que vous avez déjà vu des mangas un peu? Celui-là, vous l'avez tous reçu chez vous? Oui, donc je peux arrêter de parler, en fait. Je rigole. Pour faire quelque chose de court, un petit peu quand même pour présenter les mangas, c'est donc une BD, une bande dessinée japonaise qui est de base dessinée en noir et blanc, qui se lit de droite à gauche, c'est-à-dire pour nous, on va dire à l'envers, mais c'est le sens normal quand on est japonais. Il y a un style de dessin particulier, des personnages souvent avec des grands yeux, des fortes expressions qui peuvent paraître vraiment surjouées quand on a l'habitude de lire peut-être des BD franco-belges, ou pas de BD du tout d'ailleurs. Et pour vous dire un petit peu, la France est le deuxième consommateur de manga au monde, après le Japon. Donc c'est très très populaire, les mangas, maintenant des élèves qui sont en primaire jusqu'au lycée, ça touche plusieurs générations. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'aimer, mais en tout cas pour vous dire que c'est très très populaire en France. Si vous avez reçu ce manga, peut-être il y en a qui ne l'ont pas reçu, au tout début, pour les lecteurs non initiés, il y a quand même une petite aide pour aider à lire. Voilà, j'espère vous a aidé, je crois qu'il y a des oui. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, sachez qu'on ne vous le donne pas comme ça, sans une petite aide. Alors un petit synopsis de cette histoire quand même. C'est donc l'histoire d'un groupe de jeunes qui fait un week-end à Darnay, non, qui fait un week-end pour la rentrée de son groupe de jeunes. Il y a 7 jeunes, on en voit un petit peu, il en manque là, et 2 responsables qui sont ici, voilà. Et chacun a bien sûr son petit caractère, son approche, son physique. Et parmi ces personnages-là, il y en a un qui s'appelle Noah, que vous voyez avec les beaux cheveux noirs, hein, qui n'a pas l'air d'aller bien et qui vient à ce week-end, mais qui n'a pas l'air dans son assiette. En tout cas, c'est un constat que font les responsables. On passe un peu. Les responsables, pour ce week-end, ont choisi le thème de la rencontre. Et donc, ils proposent plusieurs activités autour, que ce soit le moment spi, un moment de jeu, des échanges. Et notamment pendant ce moment spi, donc c'est un petit moment qu'ils font au coin du feu, comme ça. Enfin, au coin, c'est quand même un grand feu. ils utilisent 2 passages bibliques pour parler de cette rencontre. Il y en a un qui est l'aveugle de Jéricho, qu'on va du coup étudier ce matin, et un autre qui parle de la Samaritaine, et qui est donc présent dans le manga, mais dont on ne va pas parler ce matin. Et ces deux passages parlent d'une rencontre, et c'est un des thèmes qu'on va un peu aborder, même s'il y en a plusieurs. Mais pendant ce temps, Noah, qui donc a quelque chose sur le cœur, explose un peu et pose une question qui est la suivante. Enfin, il fait cette remarque: rencontrer un jour Jésus, ok, mais après, où est Jésus? Il passe son chemin des fois, non. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne peut pas le toucher. Dans la vraie vie, où est Jésus? Alors, je trouve que c'est une question qu'on peut se poser, parce que quand on lit la Bible, on lit beaucoup de choses qui sont passées dans un contexte où Jésus était vivant, physique, pour les contemporains de son époque. Mais maintenant, nous, il est peut-être des fois un peu plus difficile de voir, de toucher et d'entendre Jésus. Et c'est une question que Noah se pose parce qu'il déborde de choses qui sont trop dures pour lui, mais qu'on peut se poser à tout moment, et on va essayer un petit peu d'avancer sur ça ce matin, au travers du texte. Alors je vais lire le texte de l'aveugle à Jéricho, et si vous avez des Bibles, je vous invite à suivre avec moi, pour être sûr que je ne lis pas n'importe quoi. Mais voilà, je vais lire dans la traduction NBS. Alors on voit que je suis vraiment... j'utilise mon portable. Ah, tu l'as là. Ah bah voilà. Il y a des bonnes personnes qui impriment les textes. Donc c'est 18, 35 à 43. Jésus guérit un aveugle à Jéricho. Comme il approchait de Jéricho, Jésus, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit une foule en mouvement et demanda ce qui arrivait. On lui répondit: « C'est Jésus, le Nazoréen, qui passe. » Il s'écria: « Jésus, fils de David, aie compassion de moi. » Ceux qui marchaient en avant le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus: « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, l'aveugle répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et se mit à le suivre en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, se mit à louer Dieu.
Alors la vie de Jésus est jalonnée de rencontres. On peut se demander ce qu'a de spécifique cette rencontre de Jésus avec l'aveugle. D'abord, c'est le dernier miracle de Jésus que Luc nous rapporte dans son évangile. Et le fait que ce soit le dernier lui donne une importance particulière, comme si c'était un dernier enseignement capital que Jésus voulait laisser avant la fin de son ministère. Ensuite, même si on a tendance à se focaliser essentiellement sur la relation entre Jésus et l'aveugle, l'épisode met en scène une troisième figure, celle de la foule, et cette foule joue un rôle moins secondaire qu'il n'y paraît. Donc ce que je me propose de dire ce matin se découpe en trois parties, et la première a pour titre une rencontre, puisque c'est le thème de la rencontre, comme l'a dit Sangal, une rencontre empêchée. Toute la première moitié de ce récit est consacrée à une description, celle d'une situation qui rend la rencontre de l'aveugle avec Jésus hautement improbable. En quelques mots, on comprend que l'aveugle et la foule qui passe, sont dans deux mondes parallèles, déjà spatialement. Il est dit que l'aveugle est à côté du chemin sur lequel la foule passe. Il est donc à la marge. Et cette marginalité est particulièrement soulignée dans le texte par le mot grec qui est employé pour dire que Jésus passe. Ce verbe est formé, le verbe qui dit que Jésus passe, est formé de la préposition « à côté ». Et cette préposition est déjà utilisée pour situer l'aveugle. C'est comme si je traduisais littéralement en disant que la foule passe à côté de l'aveugle, à côté de l'aveugle qui est à côté. Donc il y a vraiment un renforcement. Autre élément qui fait qu'ils ont l'air d'être dans deux mondes parallèles, c'est que l'aveugle est assis, il est statique, il est enfermé dans son handicap, tandis que la foule est en mouvement, elle va quelque part à la suite de Jésus. Alors il reste à l'aveugle un tout petit créneau, ses oreilles et sa voix. Aussi, lorsqu'il entend la foule et qu'il apprend que c'est Jésus qui passe, il l'interpelle de toute sa force, avec l'énergie du désespoir, et je dirais même de l'espoir en même temps. Or voilà que ceux qui marchent devant Jésus, donc qui marchent avec Jésus, non seulement lui reprochent d'interpeller Jésus, mais ils cherchent à le réduire au silence. Et je trouve que empêcher un aveugle de parler, c'est violent. Comment expliquer cette réaction ? Peut-être que la foule s'imagine que l'aveugle veut une aumône et qu'on ne va pas déranger Jésus pour ça. Ou alors qu'on ne va pas arrêter Jésus qui est en route vers Jérusalem. Toujours est-il que la foule renvoie l'aveugle dans les cordes. Et ainsi, elle l'enferme dans sa situation, comme si elle le réduisait à l'étiquette « aveugle mendiant ». C'est comme ça, point. Elle le coupe de l'accès à Jésus. L'aveugle fait partie de ces petits, de ces laissés pour compte, comme on en trouve plusieurs exemples dans l'évangile de Luc, de ceux que l'on enferme dans des cases, que l'on catalogue, que l'on étiquette une fois pour toutes, exactement comme ces enfants dont il est question dans l'épisode précédent. Ces enfants qu'on apporte à Jésus et que les disciples excluent, comme s'ils se disaient « Ah ben non, pas eux !» Ici, les gens ont bien voulu répondre à la question de l'aveugle qui demandait ce qui arrivait. Cela les engageait à rien. Mais ils ne font pas plus. C'est plus confortable de se satisfaire du statu quo, de ne pas remettre en question une situation bien établie, chacun à sa place. Et ce qui est extraordinaire et poignant à la fois, je trouve, c'est que l'aveugle ne se décourage pas. Il crie plus fort pour passer par-dessus la foule. Et Jésus l'entend, malgré la foule. Avec Jésus, il n'y a pas de voix parallèle, pas de voix étanche. Avec Jésus, les points d'intersection existent. Et l'aveugle, qui était au début du texte statique et marginalisé, se retrouve à la fin, marchant sur le chemin, à la suite de Jésus. Louant Dieu. Comment en est-il arrivé là? Que s'est-il passé entre les deux? Et j'en arrive ici à la deuxième partie. La première s'intitulait « Une rencontre empêchée » et la deuxième s'intitule « Une vraie rencontre ». Je pense que souvent, nous agissons ou nous réagissons comme la foule, nous qui suivons Jésus, nous aussi. Et Jésus nous donne ici une leçon de relation d'aide. Non seulement Jésus entend l'appel au secours de l'aveugle, mais il s'arrête, il interrompt sa marche. il fait sortir l'aveugle de son bord de chemin, de sa marge, pour le faire venir près de lui. Et c'est déjà lui montrer de l'intérêt. Et encore plus, il lui donne la parole. Exactement le contraire de ce que la foule a fait, elle qui le faisait taire. Et Jésus lui donne la parole en lui posant cette question : que veux-tu que je fasse pour toi ? Jésus cherche à savoir quel est son besoin, alors que la foule ne s'y est pas intéressée. Elle qui était enfermée dans sa façon de voir et le maintien sécurisant de son statu quo. Bien sûr, Jésus connaissait d'avance le besoin de l'aveugle. Mais c'est une marque d'égard de lui poser la question. Et surtout, de ne pas apporter de réponse qui ne corresponde pas à un besoin expressément formulé. C'est en ce sens que je trouve que cet épisode nous apprend beaucoup sur la façon d'agir vis-à-vis des autres. Ne pas apporter de réponse qui ne correspond pas à un besoin expressément formulé. Et cette vraie rencontre a profondément transformé l'aveugle. Jésus accède à sa demande en lui rendant la vue et il ajoute « Ta foi t'a sauvé ». L'aveugle a effectué non seulement un cheminement physique de sa situation statique et de bord de route d'homme aveugle à sa situation en mouvement sur la route d'homme voyant. L'aveugle a aussi effectué un cheminement intérieur. Au début, il criait « Jésus, fils de David, aie compassion de moi ». Et il en est venu à dire « Seigneur, que je retrouve la vue ». On comprend qu'il avait déjà entendu parler de Jésus, puisque quand on lui dit que c'est Jésus le Nazoréen qui passe, il l'interpelle, non pas en l'appelant Jésus le Nazoréen, mais Jésus fils de David. Donc on sait qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Mais sa demande au départ est quand même un peu vague. « Aie compassion de moi ». Quel geste de compassion attend-il de Jésus ? Est-ce qu'il attend que Jésus le sorte de sa misère, de sa marginalité ? Néanmoins, son cri manifeste déjà sa foi en Jésus, de même que son insistance à l'interpeller malgré les obstacles. Et une fois en présence de Jésus, lorsqu'il répond à sa question, il l'appelle cette fois-ci « Seigneur » et il ose lui demander quelque chose d'insensé, qui touche au plus profond de lui-même, à la racine de sa marginalité. Dans la rencontre avec Jésus, sa foi s'est renforcée. L'intérêt que lui a manifesté Jésus, le respect qu'il lui a témoigné, le dialogue qu'il a instauré avec lui, ont été décisifs. Ils l'ont amené à avoir confiance en Jésus qui lui parle. La question de Jésus l'a conduit à mettre sa foi en œuvre. Il se jette à l'eau. Et c'est ce que Jésus honore en reconnaissant publiquement que sa foi l'a sauvé. Et c'est ce double cheminement, physique ou spatial et intérieur, qui lui permet de rejoindre le cortège de ceux qui suivent Jésus.
On a vu une rencontre empêchée, on a vu aussi une vraie rencontre. Dans la rencontre empêchée, je vais faire un parallèle très classique. Qu'est-ce qui nous rend aveugles aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous sépare de Jésus ? Qu'est-ce qui nous empêche de le rencontrer vraiment ? dans l'histoire et dans le contexte, on a vu qu'il y a l'handicap de l'aveugle, il est aveugle tout simplement, c'est déjà une difficulté, mais aussi la foule qui le met de côté. Qu'est-ce qui vous empêche de voir Jésus, de le rencontrer? Les autres, des fois nous-mêmes. Du côté du manga, Noah est empêché aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose avec laquelle il lutte. Et cette souffrance l'empêche de rencontrer pleinement Jésus. Mais comme dans l'histoire avec l'aveugle, alors que l'aveugle prend un peu son courage à deux mains et interpelle Jésus, Noah fait déjà le premier pas d'aller au week-end groupe de jeunes et de se laisser un petit peu interpeller. Pendant ce week-end, donc dans le manga, il y a encore un moment où Noah va un petit peu plus loin et il ose parler à Dieu sincèrement. Et donc dans un moment, on va dire, où Noah est vraiment à l'intérieur de ses pensées, il dit à Dieu, si tu es là, donc ça c'est dans le manga, si tu es là, prouve-moi que tu ne m'abandonnes pas, parce que j'ai l'impression que tu as des kilomètres et que tu ne m'entendras jamais. Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Lucille, avec le fait que Dieu sait déjà ce dont on a besoin. Il le sait, il est omniprésent, omnipotent. Mais il désire un dialogue, il désire de la sincérité entre nous et lui. Il ne désire pas des petites prières, je pense, bien faites, des fois qu'on peut faire par automatisme. Si on craque, si on n'en peut plus, comme le cas de Noah ici, il apprécie qu'on y aille vraiment. C'est ce qui s'appelle l'intégrité dans la Bible, c'est un mot que j'aime bien, c'est-à-dire être pareil à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si à l'intérieur je me sens en colère, à l'extérieur j'ai le droit de le dire à Dieu aussi. Je me souviens avoir fait une prière à Dieu une fois parce que j'étais en colère contre une amie et je m'en voulais d'être en colère comme ça. Et en fait, j'étais tellement en colère qu'à un moment donné, j'ai tout lâché et j'ai dit « Seigneur, j'en peux plus, j'aimerais tellement qu'elle soit même écrasée par un camion. » Alors c'est violent, mais je lui en voulais vraiment. Mais en fait, j'ai dit à Dieu ce que je ressentais réellement. Et donc, Dieu a permis qu'elle soit... Non, je... Jésus a engagé le dialogue depuis longtemps. Il a déjà dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il l'a dit à l'aveugle. Et Noah, là, il réagit de cette manière en disant « Mais moi, je ne l'entends pas, je ne le vois pas, je ne peux pas le toucher. » Ces paroles que Jésus a dites, il n'y a pas Jésus en face de moi pour me les dire. Alors voici un aspect que j'aimerais vous apporter un peu ce matin. C'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si Noah a pu entrer dans ce dialogue et dire sincèrement dans ses pensées ce qu'il voulait à Dieu, même si c'est une histoire fictive, si moi j'ai sincèrement pu dire ce que je pensais de ma copine à ce moment-là, c'est parce que cette phrase « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est aussi dans la Bible et je vous laisse chercher la référence. Non, c'est dans Hébreu. Donc nous aussi, nous pouvons dialoguer librement avec Jésus. C'est une question de foi, certes. C'est un dialogue par la foi, parce que ce qu'il a dit est vrai encore aujourd'hui. Et j'ajouterai que Dieu répond aux prières en son temps, et peut-être des fois pas de la manière dont on espère, mais Dieu répond parce qu'il s'intéresse, parce qu'il y a cette relation d'aide, un engagement des deux côtés. Quand on est sincère avec lui, il est sincère pour nous répondre et pour nous donner aussi, je pense, un accès de comprendre sa réponse, vu que des fois, elle n'est pas telle qu'on l'aurait imaginée. Dans le manga, si vous l'avez lu, Dieu répond aussi en son temps à Noah, d'une manière.
Donc j'en arrive à la troisième et dernière partie, intitulée « Une rencontre qui fait bouger les lignes ». Parce que Jésus a fait cheminer l'aveugle, mais il a aussi fait bouger les lignes en ce qui concerne la foule. C'est à elle que je vais m'intéresser maintenant plus particulièrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand Jésus s'arrête, il demande qu'on lui amène l'aveugle, et je me suis demandé pourquoi Jésus ne s'est pas rendu lui-même auprès de l'aveugle. En fait, c'est à ceux qui rabrouaient l'aveugle et qui l'enfermaient dans sa situation, c'est à ceux-là, à ces personnes-là, que Jésus demande de sortir l'aveugle de sa situation, d'accompagner l'aveugle pour qu'il puisse le rejoindre sur le chemin. C'est pas grand-chose. Il suffit d'amener l'aveugle à Jésus. Mais c'est lourd de sens. Non seulement Jésus fait faire à la foule, et c'est même un ordre, il ordonne qu'on lui amène. Non seulement il fait faire à la foule le contraire de ce qu'elle a fait, et on peut remarquer, sans lui adresser de reproches, sans la condamner. Mais en plus, il associe la foule à ce qui va suivre. Elle a fait fausse route, cette foule, à la fois en ce qui concerne l'aveugle, qu'elle n'a pas pris en considération, et en ce qui concerne sa méconnaissance de Jésus. Parce que Jésus est prêt à interrompre sa marche, prêt à se dérouter, à écouter, à répondre, à sauver. Donc la foule, elle aussi, était aveugle. Et la fin du récit est extraordinaire. Il est dit, tout le peuple, en voyant cela, se mit à louer Dieu. Et si je traduis littéralement le texte grec, tout le peuple, voyant, se mit à louer Dieu. Le peuple, voyant. Donc à la fin, la foule a retrouvé la vue, elle aussi. Du coup, l'aveugle loue Dieu et la foule loue Dieu avec lui. Ils se retrouvent à cheminer ensemble, grandis l'un et l'autre par la rencontre avec Jésus qui leur a ouvert les yeux et leur permet d'aller plus loin sur le même chemin à sa suite et pour la gloire de Dieu. Sur la route de Jéricho à Jérusalem, où Jésus va mourir, il laisse un exemple fort. Il va plus loin que dans la parabole du bon samaritain, qui avait aussi pour cadre la route de Jérusalem à Jéricho, mais dans l'autre sens. Et cette fois-ci, c'est plus une parabole. C'est Jésus lui-même qui intervient en faveur d'un laissé-pour-compte. Et ce n'est plus à un prêtre ou un lévite que Jésus s'adresse, mais au groupe de ceux qui marchent à sa suite. Donc, à nous, en tant que communauté. Nous sommes appelés, en tant que communauté, à poursuivre son œuvre, notamment en direction des laissés pour compte. La fin du récit nous offre une belle image de l'Église où il est donné de vivre de vraies rencontres avec Jésus et avec les autres. Rencontres qui transforment les uns comme les autres et qui font aller plus loin ensemble. À condition que Jésus nous enlève nos œillères pour nous faire sortir des ornières, et ça rime, œillères et ornières. Que Jésus nous enlève nos œillères qui nous séparent des autres et de Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi, personnellement, et pour toi, Église ? Seigneur, que je recouvre la vue.
On a entendu déjà plein de choses. Une rencontre empêchée, une vraie rencontre, une rencontre qui fait bouger les lignes, cette notion d'être aveugle, la foule, l'église. Moi, je vous propose maintenant un petit temps de silence personnel pour repasser tout ça un petit peu dans vos têtes et peut-être en garder quelque chose. Et puis, je poursuivrai après. Alors je vous sors de ce temps de silence et je reviens toujours sur Noah et sa fameuse question. Ce qui est en gras là, on ne le voit pas, on ne l'entend pas et on ne peut pas le toucher. Et j'aimerais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question ? Comment est-ce que vous voyez, entendez et entre guillemets touchez Jésus aujourd'hui? Et je vous propose donc un petit temps d'échange, d'expression libre, de remarques, que peut-être on se permettrait de pas forcément répondre à ce qu'a dit le voisin, mais de juste laisser une remarque planer comme ça, et de parler bien fort pour que tout le monde entende. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, allez-y. Donc, comment vous, vous voyez Jésus, vous l'entendez et vous le touchez ?
On peut l'écouter, on peut l'écouter à travers sa parole, mais c'est-à-dire qu'on l'entend, l'écouter.
Ok. Alors, je répète peut-être pour ceux qui sont là-bas, l'écouter, si c'est ça, hein, l'écouter au travers de sa parole.
On l'entend lorsque il permet qu'on prenne conscience de choses qui ne vont pas en nous. Pour moi, c'est une grâce de d'un coup de dire lui, Seigneur, c'est vrai, ce que je fais là, ce que je pense là, c'est pas bien. Mais c'est comme s'il me le disait.
C'est à l'intérieur. Ouais.
Et on le voit à travers les autres aussi, ceux qui vivent avec une foi forte. On voit qu'ils sont guidés par Jésus. Donc pour moi, c'est quand je vois quelqu'un qui vraiment déplace les montagnes, je me dis waouh.
C'est vrai qu'une montagne qui se déplace, moi ça me fait quelque chose aussi.
Je rajouterais juste que peut-être pas forcément quand les montagnes sont déplacées, mais la façon dont les autres vivent leur foi. Voilà, c'est le partage de la communauté, de l'Église, la façon de vivre, le partage. On voit Jésus à travers nos frères et sœurs.
Donc on voit Jésus à travers nos frères et sœurs, la manière dont on vit le partage. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose encore ? Alors, j'ai eu l'occasion déjà de faire quelques tours d'église. Je crois que c'est la sixième, il me semble, où on peut faire une prédication. Et je pose donc chaque fois cette question, et il y a diverses réponses. Et souvent, les, pr- premières réponses qui sont données, c'est je vois Jésus dans une prière, je l'entends dans mon cœur, je le vois dans la nature. Et donc, je ne dis pas ça négativement, mais pour moi, ce n'est toujours pas le voir ou l'entendre. Ça paraît très spirituel, c'est très « Jésus est une vapeur et il est là ». Mais je ne me moque pas vraiment parce que je l'entends aussi comme ça. Mais pour un jeune, donc pour quelqu'un qui... Ah, on a mis le texte avant. Mais pour un jeune, quelqu'un qui a besoin de quelque chose de physique, on va dire, de réel, cette question peut être difficile. Et donc à la fin du manga, Mathias, qui est sur la couverture ici en jaune avec un bonnet gris, prie en ces termes. Il dit donc « Dieu, tu es amour, et oui, je te vois, je t'entends et te sens, chaque fois que nous partageons un peu de ton amour, ainsi nous cheminons toujours plus vers toi. » Et ça a été dit aussi, alors je ne sais pas quand ça a été affiché, peut-être que c'est... Ah non, non. Mais ça a été dit, on le voit au travers de nos frères et sœurs, au travers de quelqu'un qui a la foi. Et ça, je trouve que c'est une manière incroyable de voir, d'entendre et de sentir Jésus, au sens du toucher. Jésus, on peut le rencontrer, toujours le thème de la rencontre, au travers de l'amour que nous nous témoignons. Et à la fin du manga aussi, il y a une image où Noah est accompagné de ses amis. Et vous l'avez vu dans la prédication, il prie pour lui, en fait, il pose ses mains sur lui. Et à ce moment-là, pour Noah, c'est comme si Jésus le prenait par la main, parce qu'il est touché, parce que cet amour-là se transmet. Et Dieu est amour. Et je trouve ça vraiment incroyable comme c'est lié, ces moments où on n'est pas dans l'expression de l'amour de Dieu, où on ne témoigne pas forcément l'amour de Dieu, parce que c'est pas toujours simple et évident, ou des fois parce qu'on est à côté de la plaque, tout simplement. Et on va s'éloigner de Dieu. Souvent, les gens qui ont des paroles, on va dire, désagréables, ou qui sont pas vraiment faites avec de l'amour, et ben, ça va nous amener à nous éloigner de Dieu. Notre relation avec Dieu va en prendre un coup. À l'inverse, quand on voit justement des gens qui témoignent de l'amour de Jésus au travers de qui ils sont, de ce qu'ils font, de comment ils nous font ressentir, notre relation avec Dieu prend des envols et est de plus en plus forte. Je trouve que les deux sont incroyablement liés. Alors, je ne dis pas que nous sommes Dieu, que nous sommes Jésus, j'irai pas jusque-là, mais son amour peut quand même loger en nous et témoigner vraiment de qui est Jésus. Je lis un petit verset qui m'amuse un petit peu, qui est dans Jean 4, verset 12, toujours dans la traduction LBS. « Personne n'a jamais vu Dieu. » Donc c'est Jean qui dit ça, c'est rassurant, alors qu'il était avec Jésus un petit peu quand même. « Personne n'a jamais vu Dieu. » Point. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. » Moi, je suis épatée par ça. Et donc là, aujourd'hui, comme l'a dit Lucille avec cette fin de texte de l'aveugle, que la foule ensemble voit et avec l'aveugle voit et suit Jésus, j'aimerais vous encourager. J'aimerais un petit peu proclamer un hymne au groupe, un hymne à l'Église, dire que c'est magnifique quand même l'Église, de pouvoir, même si on n'est pas parfait, s'entraîner toujours plus à nous aimer, à nous témoigner de l'amour de Jésus, à refléter Jésus. Ça fait vraiment du bien quand on voit Jésus chez quelqu'un et qu'on reçoit une belle parole, quand on l'entend, on se sent touché dans nos cœurs. Alors, avec la période du Covid, j'ai conscience que c'est difficile, mais des fois, quand une main se pose sur notre épaule, quand on vit quelque chose de difficile, c'est comme si Jésus nous touchait. Dans les repas ménonites, qui sont aussi un peu moins possibles en ces temps, j'aime toujours les agapes, je trouve que là, il y a tellement de partage, et j'ai l'impression de voir la multiplication des pains, et tellement de joie. J'ai encore conscience que c'est plus trop possible, mais... Peut-être vous avez un souvenir comme ça. Église de Darnay, dont on fait aussi partie. Courage. Continuez de vous aimer les uns les autres, de vous pardonner, de vous accueillir, de trouver dans vos différences des forces. On n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, c'est vrai. Il y a des différences. Mais continuez, soyez fortifiés parce que c'est beau, cet amour que Jésus met en vous et qui peut toucher les autres. Pour clore ce moment de prédication, on vous propose de faire un chant et du coup, comme c'est Ephraim qui fait la musique, est-ce que ça va aller si on prend J'aime 584 ? Tu connais ?
Ouais, je connais.
Ah, ok. Du coup, je vous propose comme une prière de chanter « Nous voulons vivre l'unité ». Et pour l'Église, alors j'ai conscience que l'Église doit parcourir les routes, mais aujourd'hui, de prendre soin de nous, de vous. Et je vous invite à vous lever pour ceux qui veulent et peuvent.